Et pourquoi? Et pourquoi?
Et pourquoi? Un podcast qui explore l'actualité pour les enfants, mais pas que.
Le groupe américain Pfizer annonce un vaccin efficace à plus de 90% contre le coronavirus.
C'est une découverte qui soulève un immense espoir.
L'objectif, vacciner 70% de la population, soit 8 millions de Belges.
Cette femme est sur le point de rentrer dans l'histoire. Elle est la première patiente au monde à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech en dehors d'un essai clinique.
Ce vaccin sera administré sur base volontaire.
Et pourquoi un vaccin contre le coronavirus ?
C'est le sujet du moment. Difficile, voire impossible de passer à côté, le vaccin attendu par beaucoup comme le moyen de pouvoir enfin revivre normalement malgré le coronavirus. Un vaccin qui suscite aussi beaucoup de questions et de débats entre ceux qui se feront vacciner à coup sûr.
Certainement, parce que j'y crois.
Oui, je vais me faire vacciner parce que j'ai passé les 80 ans.
Et ceux qui en sont moins sûrs, ou qui s'inquiète.
Bon, on ne sait pas, peut-être ça peut avoir des conséquences après.
Je sais pas, moi ça me fait un petit peu peur de me faire vacciner contre ça.
J'attends plutôt les scientifiques qui nous rassurent un peu plus.
Alors justement, on va aller en voir un de scientifiques. En compagnie de quelques élèves de 6e primaire de l'école Saint-Martin de Sorine, près de Dinan, on s'est rendu à l'hôpital Erasme pour y rencontrer un spécialiste en immunologie.
Bonjour, je suis Jean-Christophe Goffard, directeur du service de médecine interne et responsable des unités Covid depuis le début de la pandémie.
Mais commençons par le début. Ça sert à quoi, un vaccin ? Avant de venir, nos reporters en herbe avaient déjà un peu potassé le sujet.
Ça sert à nous soigner d'une maladie.
Un vaccin, ça sert à développer des anticorps. Comme ça, quand on aura la maladie, elle partira plus vite.
Je crois que ça peut aider les gens à guérir plus vite et aux personnes plus à risque de rester en vie.
Voilà déjà une bonne base. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par remonter un peu dans l'histoire pour comprendre comment, au départ, on a eu l'idée de combattre les maladies avec des vaccins. Et retournons au XVIIIe siècle. À l'époque, sévit une maladie très meurtrière qui s'appelle la variole. Cette maladie, transmise par un virus, provoque chez ceux qui l'attrapent des pustules, des espèces de gros boutons horribles un peu partout sur le corps. Et rien qu'en Europe, elle fait chaque année des dizaines de millions de morts. Mais voilà, chose étonnante, du côté des fermiers, des éleveurs de vaches en particulier, il y a très peu de cas.
Alors on s'est rendu compte en fait que des personnes qui étaient exposées à des virus qui étaient dans leur bétail, qui ressemblaient très très fort à la variole, permettaient d'être protégées contre la variole elle-même. Donc des fermiers qui traitaient les vaches et qui elles-mêmes avaient un virus de la vache, finalement étaient protégées contre un virus très très proche de ce virus de la vache et ne développaient pas la variole.
Découverte très intéressante donc. Non seulement les fermiers dont les vaches étaient atteintes de la variole de la vache n'attrapaient pas cette maladie spécifiquement animale, mais en plus, il semblait avoir gagné une sorte de protection aussi contre la forme humaine de la maladie. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ça pouvait donc être une bonne stratégie de protection face au virus, face aux agents infectieux.
En effet, on s'est rendu compte finalement qu'avoir quelque chose qui ressemble très fort suffit à entraîner une protection contre l'agent qui nous intéresse réellement. Et finalement, c'est comme ça que se sont développés tous les vaccins, c'est d'avoir des parties de virus qui permettent de reconnaître l'entièreté du virus. On n'a pas besoin de tout, il suffit que ça ressemble un peu.
Tout comme la variole de la vache ressemblait à la variole humaine. Et d'ailleurs, c'est amusant à noter, cette variole de la vache s'appelait la vaccine, d'où ce nom qui est resté du vaccin, depuis lors largement répandu, puisqu'aujourd'hui, on vaccine contre
la grippe, la rougeole, l'oreillon et
la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé compte une vingtaine d'infections, désormais évitables grâce au vaccin. Mais tâchons de comprendre ce qui se joue alors concrètement dans notre organisme quand on est vacciné. Imaginons que notre système immunitaire, ce soit comme des policiers, des petits soldats chargés dans notre corps de nous défendre contre les maladies.
Allô centrale, alerte.
Des policiers et des soldats qui, en général, s'en sortent très bien tout seuls, mais qui parfois sont dépassés par les événements. Alors on peut, par exemple, leur envoyer du renfort, et c'est ce qui se passe avec les médicaments. Le vaccin, lui, c'est autre chose. Il ne vient pas en renfort, il vient entraîner notre système immunitaire en lui présentant à l'avance les ennemis qu'il risque un jour de rencontrer.
Vous devez imaginer que les policiers que sont vos cellules du système immunitaire, elles doivent apprendre à reconnaître l'agresseur. Le preneur d'otages, par exemple, qui a un otage dans ses bras avec un pistolet sur sa tempe, ben, il ne faut pas se tromper. Qui est l'otage ? Qui est la victime ? Ben, votre système immunitaire doit faire la même chose. Il doit s'entraîner dans chaque fois qu'il va voir un preneur d'otage à réagir et à détruire ce preneur d'otage sans faire de mal à l'otage lui-même. C'est à ça que sert le vaccin. C'est le champ d'entraînement. Et une fois que votre système a été entraîné, on n'a plus besoin de ce qui était dans le vaccin. Votre système immunitaire, vos policiers, vos globules blancs vont être capables de reconnaître les preneurs d'otages dans toutes les circonstances.
Cessez le feu, sinon nous exécutons les otages.
Ça, c'est le leader.
Envoyez quelqu'un pour négocier.
On vous envoie un homme pour négocier.
Personne d'autre ne veut négocier ?
Pour cela donc, on présente à notre organisme des petites parties de virus.
Est-ce que c'est pas dangereux ?
Pour répondre à cette question, Jean-Christophe Goffard nous explique qu'on choisit soigneusement les parties de virus que l'on va injecter, car dans un virus, tout n'est pas dangereux.
Alors dans des bactéries, dans des virus qui nous agressent, vous avez des parties qui sont importantes pour que notre système immunitaire les reconnaisse, mais vous avez aussi des parties qui nous rendent malades, celles qui vont enflammer notre poumon, celles qui vont faire que nos nerfs vont plus fonctionner, celles qui vont faire que notre foie va être abîmé quand on parle d'hépatite. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas avoir ces parties qui sont toxiques, mais ne garder que les parties qui permettent de reconnaître l'agresseur. On enlève tout ce qui est toxique et on ne garde que la partie importante pour que le système immunitaire s'entraîne à reconnaître l'agresseur.
Pour reprendre notre exemple, c'est comme si notre preneur d'otage sur le terrain d'entraînement avait juste un fusil en plastique.
Tout à fait, en fait, le preneur d'otage, on voit que c'est un preneur d'otage parce qu'il a un fusil braqué sur la tempe et parce qu'il tient de façon violente la personne. Si finalement on désarme et on désamorce son arme, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les balles et qu'on fait que cet agresseur a plus de muscles du tout et qu'il peut à peine tenir l'otage, l'agresseur n'est pas vraiment agressif et il est facile de le reconnaître parce qu'il n'a pas changé de tête, il n'a pas changé d'attitude et il a toujours son fusil, même s'il ne sait rien faire à l'otage qu'il a pris en otage.
Attention, hein. Le plus important, c'est de lui donner un grand coup sur la tête, dans la nuque, là, tu vois. Faut pas hésiter. Comme ça. Tac !
Ceci dit, ça reste évidemment un processus compliqué de développer un vaccin. Quel morceau de virus choisir pour entraîner au mieux notre système immunitaire, mais en même temps, ne pas nous rendre malades ? Pour s'en assurer, on va faire de nombreux tests. D'abord, en laboratoire, dans des éprouvettes, puis sur des animaux, et puis quand on est à peu près sûr que ça fonctionne, on passe aux humains. Et voilà comment cela se passe pour ceux qui acceptent de participer au test. Imaginons un groupe de 6, puisqu'à Erasme, justement, nous étions, avec Jean-Christophe Goffard, 6 autour de la table.
Il y a quelqu'un qui va tirer au sort pour savoir qui va être vacciné. 3 vont être vaccinés, 3 ne vont pas être vaccinés. Et puis, mais vous ne savez pas ce que vous avez reçu. Vous avez tous reçu une injection. Tous. Certains avec le vaccin, d'autres juste avec du sérum physiologique de lourd, en gros. Et puis, on va vous suivre. Ah, monsieur, là, vous faites le coronavirus. Toi, tu fais le coronavirus. Mais nous autres, on ne fait pas le coronavirus. Tous ceux qui restent. Est-ce que le vaccin a marché ou pas ? Ben, on ne sait pas encore qui l'a reçu, qui l'a pas reçu. Il y a quelqu'un qui a toutes les données. Et donc, quand on aura suffisamment de données, on va arrêter l'étude et regarder qui avait reçu le vaccin, qui n'avait pas reçu le vaccin. Les deux personnes qui ont fait le coronavirus autour de la table, il se trouve qu'elles sont dans le groupe qui n'avait pas été vacciné. Et par contre, dans ceux qui ont reçu le vaccin, aucun n'a fait le coronavirus. C'est comme ça qu'on sait que le vaccin est efficace.
Mais bien sûr, on fait ça sur beaucoup plus que 6 personnes. Par exemple, il y en avait plus de 40 000 pour tester le vaccin de la société Pfizer, le premier vaccin qui va arriver chez nous. Mais revenons à notre test sur 6 personnes. On sait maintenant que le vaccin est efficace, mais comment peut-on savoir qu'il n'est pas dangereux, qu'il ne provoque pas trop d'effets secondaires ?
Dans le groupe qui a été vacciné, il y en a un qui a eu le nez qui coulait, il y en a un autre qui a eu un peu mal de tête, et deux qui ont d'ailleurs eu mal de tête pendant toute la suivi de l'étude. Et il y en avait un dans le groupe qui avait été vacciné et un autre qui était dans le groupe pas vacciné. C'est comme ça qu'on peut voir s'il y a des différences liées au vaccin, qui est la seule chose qui différencie les deux groupes.
On va donc comparer. S'il y a eu autant de personnes qui ont eu mal au ventre dans le groupe qui a eu le vaccin que dans le groupe qui ne l'a pas eu, eh bien on peut se dire que ce n'est sans doute pas lié au vaccin lui-même. Par contre, s'il y en a beaucoup plus qui ont eu de la fièvre dans le groupe des vaccinés, on peut se dire que c'est probablement là lié au vaccin.
Et c'est bien pour ça qu'il y a des études cliniques où vous comparez les personnes qui ont reçu le vaccin à des personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. Mais personne ne sait qui l'a reçu, qui ne l'a pas reçu. Et on les observe pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, pour voir d'une part s'ils font des problèmes ou s'ils sont protégés.
D'ailleurs, si vous voulez vérifier, vous pouvez aller sur Internet et trouver les résultats de l'étude du vaccin de la société Pfizer contre le coronavirus et imprimer les 67 pages qui détaillent les résultats. Vous y découvrirez par exemple que 8 personnes sur 10 qui ont reçu le vaccin ont eu une douleur dans le bras, là où a lieu l'injection. C'est assez classique avec les vaccins, même si ici c'est plus que d'habitude. 6 personnes sur 10 ont ressenti des maux de tête. Mais c'est à prendre avec prudence, puisque dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, il y a quand même 2 personnes sur 10 qui ont aussi ressenti des maux de tête. Certains ont eu de la fièvre, c'est courant aussi avec les vaccins, puisque le but est quand même de simuler une infection, et donc forcément notre corps réagit. Mais surtout, le plus important, c'est que dans tous les tests qui ont été faits, on n'a constaté aucun effet secondaire grave.
Il y a eu des effets indésirables bénins, il n'y a eu aucun effet indésirable grave.
Il donne de la fièvre, un point douloureux, etc. C'est bien la preuve qu'il marche.
Et tout cela est étudié de très près par les autorités de contrôle de nos pays, de l'Union européenne, qui doivent donner un feu vert avant toute utilisation. Bon, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, comment on teste et comment on valide les vaccins, reste notre question de départ.
Pourquoi un vaccin contre le coronavirus ?
Alors, quand les maladies infectieuses, les médicaments les plus efficaces, ce sont les vaccins. Et la bonne médecine, c'est prévenir les maladies plutôt que de les guérir. Parce que qui dit guérir d'une maladie, ça veut dire qu'on a été malade et que potentiellement on pourrait avoir des séquelles. Évidemment, c'est pas gai de commencer à étouffer, de commencer à tousser ou d'avoir des problèmes cardiaques comme peuvent le faire des enfants quand ils ont le coronavirus. Donc il vaut mieux prévenir la maladie, c'est le secret pour tout. C'est pour ça d'ailleurs que vous mangez des fruits, que vous faites du sport et que vous regardez pas trop la télé.
Et au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, vous allez vous faire vacciner, vous ?
Ça me dérange pas, mais si on me le propose pas, je le ferai pas.
Je voudrais juste être sûre qu'il soit valable et qu'il soit pas dangereux pour moi.
Si on me le propose, je le ferai pour pouvoir faire des câlins à ma mamie, rester proche avec les gens.
J'ai peur des effets secondaires, mais... Si on nous injecte la maladie à chaque vaccin et que ça fait rien, on sait que du coup, avec celui-là, ça fera rien non plus.
Pour moi, je trouve que c'est pas la piqûre qui fera quelque chose et le vaccin, maintenant que j'ai eu des explications, ça m'a beaucoup rassurée sur ce qu'on m'injectait dans le corps.
Et toi là, qui nous écoutes, tu en penses quoi ? Et pourquoi ? Un podcast écrit par Arnaud Reussen, réalisé par Jérémy Boquet, avec à la coordination Pauline Sève. Merci aux élèves de l'école Saint-Martin de Sorine de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Si vous souhaitez réagir, proposer des questions ou participer à l'émission avec votre classe, écrivez-nous à l'adresse et pourquoi, sans espace et en un mot, @rtbf.be et pourquoi, at rtbf.be.